On va parler de un petit peu de l'étoile, des mages, l'évangile de Matthieu, chapitre 2. J'en profite pour remercier toute l'Église pour l'engagement qu'elle montre dans cette fête de Noël et la participation pour la décoration, pour les costumes, pour la musique, pour les repas, pour tout cela. C'est une merveille de voir l'Église en mouvement, en action, et ça contribue à célébrer la gloire de notre Seigneur. Alors je vous invite à chercher donc Matthieu chapitre 2, on va faire la lecture verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem ?» Terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, cette histoire, elle nous est chère parce qu'elle évoque le tout début de notre Seigneur sur cette terre. Et Seigneur, on veut porter toute l'attention, Seigneur, à ces moments pour nous réjouir, Seigneur, de ta venue ici-bas, au milieu de nous, Seigneur, pour sauver nos âmes. Nous te demandons de nous aussi nous permettre, comme ces mages, de venir t'adorer, venir nous réjouir en ta présence. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Quelle est la nature de cette étoile ? Est-ce que c'était une étoile comme une qui sont suspendues au-dessus de nos têtes ou un peu plus grande comme celle-là ? Est-ce que c'était, comme certains l'ont dit, une comète ou une supernova ou encore une conjonction de planètes qui ont guidé ces mages ? Mais en lisant le texte, il est clair que ça n'a rien de commun avec les étoiles que l'on a peut-être l'habitude d'observer dans l'univers. Celle-ci brille en plein jour, et lorsque les mages se mettent en marche vers Bethléem pour poursuivre pour chercher le Seigneur, l'étoile les guide, elle apparaît à nouveau, et puis soudainement elle s'arrête là au milieu, au-dessus du lieu où était l'enfant, pour indiquer sa présence. Non, il s'agissait certainement pas d'une planète, comme j'ai essayé d'imaginer une planète au-dessus d'une petite maison de Bethléem. Elle aurait du mal à pointer la maison, risquerait de l'écraser. Non, il s'agissait probablement d'un phénomène surnaturel, tout à fait miraculeux. Il s'agissait d'un phénomène un petit peu comme celui de la colonne de nuée, la colonne de feu qui guidait Israël dans le désert. du temps de Moïse. En Exode 13, 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux, devant le peuple, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. » Cette nuée était le symbole visible de la présence de Dieu. Le texte dit ici « Dieu marchait avec eux dans cette nuée ». En 1 Roi, au chapitre 8, lorsque Salomon a achevé la construction du temple et qu'il s'apprête à en faire la dédicace, on retrouve un petit peu la présence glorieuse de Dieu dans cette nuée. Je lis au chapitre 8 de 1 Roi, verset 10. « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, ils viennent de déposer l'arche de l'Alliance, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Vous comprenez la chose ? La gloire de l'Éternel était dans cette nuée, elle a rempli la maison de l'Éternel. Eh bien, c'était le symbole de la présence même de Dieu, là, dans ce temple. L'étoile qui a conduit les mages, c'est un peu ce phénomène. Lorsque, des années plus tard, le peuple s'était détourné de l'Éternel, commençait à mettre toutes sortes d'idoles dans le temple, cette gloire s'est retirée progressivement du temple. Cette gloire, c'est probablement ce phénomène qui s'est produit ce jour-là, qui a guidé les mages et qui a indiqué la présence de la gloire de Dieu là, dans une petite maison, dans un petit enfant, au point que ces hommes se sont arrêtés là et ont adoré. Les bergers, lorsqu'ils gardaient leurs troupeaux, cette nuit de Noël, ont aperçu aussi cette gloire. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il est écrit au verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. » Oui, certainement, cette étoile, c'était un peu comme ce phénomène de la gloire de Dieu qui guidait son peuple. L'étoile, au fond, signifie que Dieu veut conduire son peuple à adorer son Fils. Cette étoile, c'est une invitation pour nous à adorer son Fils Jésus-Christ. Ce qui est frappant dans ce phénomène, c'est que certains le voient très clairement et d'autres ne le voient pas. La gloire s'est retirée du temple, mais personne n'y a prêté attention du temps d'Ézéchiel. Arrivé à Bethléem, les mages sont conduits par elle jusqu'à la maison du Fils de Dieu, et il semble qu'ils sont les seuls à voir le phénomène. Personne n'y prête attention. Ils sont les seuls à s'arrêter dans cette maison et à adorer. Ainsi, il semble que l'on peut la voir ou bien passer complètement à côté. Un peu comme en Exode, au chapitre 14, cette nuée, elle prend deux aspects. En Exode 14, verset 19, c'est le contexte, c'est le moment où Israël a quitté l'Égypte, ils quittent l'Égypte, ils arrivent à la mer, là ils sont pris entre la mer d'un côté et l'armée de Pharaon de l'autre. Et regardez ce qui nous est dit ici, Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Voilà, je trouve cela intéressant, cette pensée, que ce phénomène, la gloire de Dieu, elle est parfois tellement frappante, tellement claire, tellement lumineuse pour le monde, au point que ces mages se sont prosternés et ont adoré, et pour d'autres, elle est simplement ténèbres. On peut passer à côté sans la voir. De la même manière que là, ce matin même, où vous êtes assis, vous pouvez connaître et rencontrer le Seigneur avec tout votre cœur. Et puis, le voisin assis juste à côté de vous, entendant les mêmes paroles que vous, n'y prête absolument aucune attention. Oui, les mages, eux, ont dit, nous sommes venus, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu la gloire et nous sommes venus pour l'adorer. J'espère que vous aussi, ce matin, vous êtes dans cette disposition de cœur, prêt à saisir la gloire de Dieu et à adorer, à vous prosterner devant lui. Et ce matin, je vous propose de voir ceux qui adorent, des mages d'Orient, ceux qui refusent d'adorer, et puis on verra en dernier lieu, qu'est-ce que l'adoration ? Ceux qui adorent d'abord, ceux qui voient la gloire et adorent, les mages d'Orient. Je trouve remarquable l'évangile de Matthieu. Matthieu, on l'appelle aussi Lévi. C'est vraiment un juif. Et il écrit à l'adresse particulière des Juifs. Et il montre que les premiers à s'être intéressés à la venue du Messie, ce sont des mages d'Orient, c'est-à-dire des païens. Dans le chapitre 1, il a donné toute la généalogie de Jésus-Christ. C'est très important pour un Juif de comprendre qu'effectivement, le Messie descend de David. Et il fallait qu'il soit lui-même un juif de la tribu de Juda, de la famille de David. Et c'est pour cela que l'évangile annoncé aux juifs commence par cela, par cette généalogie. Mais dans cette généalogie, il nomme 4 femmes seulement. Et la dernière, Marie, qui clôt la généalogie, bien entendu. Et puis les 3 autres qui sont entrés dans la lignée messianique et qui sont, au verset 3, Tamar, une cananéenne. Au verset 5, Rahab, une cananéenne aussi, de Jéricho. Et Ruth, une moabite. 3 femmes nommées et 3 païennes. La fin de cet évangile de Matthieu termine avec cet ordre solennel du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Pour un juif, c'était quelque chose, vous savez, d'entendre une telle parole. De faire de toutes les nations des disciples. Matthieu veut rappeler que le Sauveur est venu pour tous les hommes, pour toutes les nations, pour son peuple Israël et pour toutes les nations. Et ce sont des païens, des non-juifs qui sont nommés en premier comme venus pour adorer le Seigneur. Et il pose cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? On pourrait aussi traduire, où est celui qui est né roi des Juifs ? Et ça c'est intéressant comme manière de traduire, je trouve, parce que là, sur le trône d'Israël, à ce moment-là, il y a Hérode, et Hérode n'est pas né roi des Juifs. Normalement, la royauté, elle s'obtient simplement par la naissance, mais Hérode est un roi illégitime. En fait, il n'est même pas juif, c'est un Iduméen, c'est en fait un fin politicien qui a réussi à se hisser jusqu'au trône d'Israël. Il sait néanmoins à qui les mages font référence. Quand il entend qu'il y a des mages qui parcourent toute la ville et qui ont une seule question à la bouche, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Lui, il est tout troublé. Il est paniqué, littéralement. Il fait venir les chefs religieux, les souverains, les sacrificateurs, les scribes, et il leur pose la question, où, regardez cela, verset 4, où le Christ devait naître. Eux n'ont parlé que du roi des Juifs, mais lui, il dit, où le Christ. Et ça, c'est un mot important. Le Christ, c'est loin, c'est-à-dire celui qui a été choisi par Dieu. C'est le mot grec pour Messie. Il est appliqué à Jésus comme celui qui est choisi par Dieu pour délivrer les hommes du péché. Et à ce titre, il représente l'espérance d'Israël et de toutes les nations. Il est le Dieu qui s'est incarné et qui nous délivrera de nos péchés. Et c'est pour cela que tous ces mages sont venus pour adorer le Seigneur. Il en est entièrement digne. Maintenant, ceux qui refusent d'adorer. D'abord, on trouve les scribes. Ah, ça, c'est fascinant, c'est surprenant. Les mages arrivent à Jérusalem et commencent à interroger tout le monde avec cette question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Tout Jérusalem est au courant de l'arrivée de ces hommes. Ces mages, en fait, ce sont des sages de l'Est. Ils ont observé cette étoile, et pour eux, c'était clair, c'était le faire part de la naissance du roi des Juifs. Et ils viennent pour le célébrer. Jérusalem apprend l'arrivée de ces hommes, ils apprennent l'étonnante question. La chose parvient même aux oreilles d'Hérode. Il appelle les principaux sacrificateurs, les scribes, ceux qui passent leur temps à étudier l'Ancien Testament, ceux qui passent le temps à recopier la parole de Dieu. Il leur dit, mais vous avez entendu ce qu'ils disent? Il y a des mages qui parcourent Jérusalem. Ils ont une seule question en tête, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dites-moi, où le Messie doit-il naître? Bon, roi, nos problèmes, c'est facile, hein? C'est Bethléem. Bethléem parce que Michée, le prophète, 700 ans plus tôt, l'a prophétisé ainsi. Et toi, Bethléem, Ephrata, parce qu'il y avait deux Bethléem, en fait, il y en avait aussi une dans le nord. Et toi, Bethléem, Ephrata, de Judée, tu n'es pas une petite ville, oh non, parce que dans ta ville est né le Sauveur du monde. Celui dont l'origine remonte au temps éternel. Vous imaginez la chose? Au temps éternel. Il est en train de parler de Dieu lui-même qui s'est incarné. Et eux, ils citent la prophétie. Il est l'éternel. Il est le Messie. C'est toute l'espérance d'Israël. Tout le monde a grandi dans cette perspective. Un jour, le Messie va venir et il va nous délivrer. En Luc chapitre 2, on trouve au verset 25 un homme pieux, Siméon. Il nous est dit de lui qu'il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire celui qui devait sauver Israël. Au verset 38, on apprend qu'il y avait une certaine Anne, la prophétesse. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Les scribes disent, tu veux savoir où le Messie doit naître? Ce que demandent les mages? Mais il est né à Bethléem. Et eux, ils rentrent chez eux, ils retournent dans leur bureau, ils vont continuer à recopier les prophéties, et ils n'y vont pas. Bethléem, c'est à 10 kilomètres, c'est la banlieue de Jérusalem. 10 kilomètres. Ils pouvaient y aller, revenir dans l'après-midi. Ils n'y sont même pas allés. Bethléem, c'est la ville de David. C'est, Le Messie, c'est le fils de David. Bethléem, c'est la ville où on élevait tous les agneaux, les brebis, celles qui étaient sacrifiées dans le temple. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. C'est hallucinant. Les jeunes de l'époque ont dit « j'hallucine ». J'hallucine. Ils sont complètement indifférents. En fait, ils ne souhaitent absolument pas que le Messie vienne. Ils ont une religion. Ils ont une religion qui leur convient. Ils n'ont pas du tout l'intention d'en changer. Et d'ailleurs, ils ne souhaitent absolument pas que Dieu se mêle de leurs affaires. En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste une religion. Vous savez, c'est bien pratique, une religion. Vous la sortez quand vous voulez, vous la rangez quand vous voulez. Elle ne vient pas vous parler, non. C'est vous qui la maîtrisez. Elle demande quelques genouflexions, un cierge ici et là, et une prière bien récitée. C'est tout. Dieu, lui, le Messie, il vient pour avoir communion avec nous. Il vient pour avoir un échange. Il vient pour éclairer nos vies. Il s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Il sonde nos cœurs au plus profond. C'est pas pareil du tout. Est-ce que c'est pas surprenant? Ceux que l'on s'attendait à voir en premier, les scribes, n'y sont pas. Et ceux que l'on n'attend pas, les païens, ils sont. Jésus est venu pour sauver. Ceux qui se croient bien ne viennent pas. Ce qui tient les hommes les plus éloignés de Dieu, au fond, c'est leur propre justice. Leur propre justice parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. J'ai vécu toute une partie de ma vie comme cela, bien religieux, pensant ne pas avoir besoin de Dieu. Je me suis dit, si moi je ne vais pas au ciel, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui vont y aller. C'était d'une prétention. C'était ignorer complètement ce que Jésus-Christ était venu pour accomplir. Et puis, il y a Hérode. Oh, Hérode le Grand. Il avait la passion des constructions grandioses. La passion des constructions ostentatoires. En fait, c'était un homme tellement cruel qu'il avait ruiné sa popularité. Et alors il cherchait à regagner la faveur du peuple juif en rebâtissant leur temple. Et c'est ce qu'il a fait, il a embelli merveilleusement le temple, à tel point qu'on a appelé ce temple dans lequel est entré le Seigneur Jésus, le temple d'Hérode. Il contribua beaucoup à embellir Jérusalem. Il construisit Samarie, qu'il nomma Sébaste. Il a aussi bâti Césarée, qui devint la capitale romaine de la Palestine. Hérode, il avait eu 10 épouses. Et donc, il avait eu un paquet d'enfants. Alors, pour la succession, c'était quelque chose. Les disputes allaient vraiment bon train. Il y avait constamment de l'opposition entre eux, des bagarres, de toutes sortes de ruses, de complots. Et bien sûr, il y avait aussi des complots, des vrais ou des complots inventés, contre la vie d'Hérode lui-même. Et lui, il est devenu complètement dingue. Il est devenu à moitié dément par les soupçons. Tout le monde était louche dans son entourage. Et il a commencé à faire du ménage. Il a tué Marianne, c'était sa femme, la favorite. Il a tué les deux fils de Marianne, Alexandre et Aristobule. Puis, juste 5 jours avant sa mort, il a tué encore un autre de ses fils, Antipater. Pour vous décrire un peu le personnage, sachant que sa mort, sa propre mort, allait être célébrée par tout le peuple, avec grande joie, avec grande festivité, L'idée ne lui plaisait pas. Alors il a fait arrêter les principaux juifs de la ville, il les a fait enfermer dans l'hippodrome, et il a dit, au moment où moi je meurs, je veux que l'on tue tous ces hommes. Au moins il y aura des funérailles. Au moins il y aura le deuil en Israël. Vous imaginez le bonhomme ? Heureusement, cet ordre monstrueux n'a pas été exécuté. Une fois qu'il était mort, il était mort. On a libéré ces hommes. Il n'est pas surprenant que Auguste ait ridiculisé ce tyran en s'écriant « Il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils. » Si vous connaissez comment les Juifs considèrent les porcs, vous pouvez imaginer la chose. Une telle disposition d'esprit explique aussi que le roi était tellement hors de lui quand il a appris cette question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Donc, on peut aussi comprendre pourquoi Matthieu a ajouté « Et tout Israël avec lui, tout Jérusalem avec lui. » Vous imaginez la chose ? Quand Jérusalem a entendu la question, il dit mais Hérode, il va rentrer dans une rage. Et ça va mal se passer pour nous. Cachez vos enfants. Il va y avoir des représailles, c'est sûr. Et ça n'a pas manqué. Les représailles ont eu lieu, pas à Jérusalem, mais à Bethléem. Hein, dans le verset 13, il est dit « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et au verset 16, il est écrit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Vous voyez la chose ? Il y avait fort à se méfier de la réaction d'Hérode. 3 réactions à la naissance de Jésus. Les mages d'Orient, ils viennent pour adorer. Les scribes, qui sombrent dans l'indifférence la plus totale. Et puis Hérode, qui rentre en guerre, dans l'hostilité, dans la violence. Vous savez quoi ? Ces 3 réactions sont toujours d'actualité à Noël. Observez, observez autour de vous. Il y en a qui prient, qui adorent, qui se réjouissent tellement pour Noël. D'autres qui sont complètement indifférents, qui attendent juste que ça se passe. D'autres encore qui ne supportent pas la chose. Ils ne supportent pas qu'on puisse parler de Jésus à Noël. Alors on parle de tous les autres personnages. Il y en a qui ne peuvent pas supporter. C'est comme une démangeaison. Quand ils entendent parler de Dieu, ils entrent en guerre. Quand ils entendent parler de Jésus-Christ et de sa venue sur la terre, c'est impossible à supporter. Quelle est la vôtre ? Quelle est votre réaction ? Oh, je me doute bien que ce matin, si vous êtes là, il y a quand même une bonne disposition dans vos cœurs. Certainement, vous êtes venus comme les mages pour adorer. Et ça vaut le coup quand même d'examiner son propre cœur. Qu'est-ce que l'adoration ? Dans notre texte, on trouve 3 caractéristiques de l'adoration que nous devrions aussi trouver dans nos propres cœurs aujourd'hui. D'abord, regardez, adorer Jésus, ça signifie, premièrement, reconnaître son autorité. Les mages ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? nous sommes venus pour l'adorer. Le fait de le reconnaître comme roi, de reconnaître son autorité, les a conduits à adorer. On adore Christ à cause de ce qu'il est. Il est le souverain. Il est notre créateur. Il tient notre souffle entre ses mains, c'est-à-dire qu'il peut mettre un terme à notre vie quand il veut. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit, une fois ressuscité, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Eh bien, parce que Jésus-Christ a tout pouvoir, il est entièrement digne d'être adoré. Il a toute autorité sur nos vies. Dans le psaume 2, il est parlé d'hommes, des rois de la terre, qui se liguent ensemble pour combattre Dieu. Vous savez ce que Dieu fait ? Il rit. Il rit. Il rit comme quand Cassius Clay, vous voyez les petits garçons venir avec leurs petits poings se mesurer à lui. Il rit. Un seul mot et notre vie cesse. Un seul mot de sa part et nous comparaissons devant lui. Il a toute autorité. La Bible dit qu'il fait ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Et à cause de cela, il est entièrement digne d'être adoré. Et quand on s'approche de Dieu, eh bien on vient en reconnaissant son autorité et on adore. Et puis la deuxième chose que l'on voit ici dans les versets 10 et 11, je lis... Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ici, je crois qu'il s'agit de célébrer quand on adore Dieu. On célèbre son œuvre. Les trésors qu'ils apportèrent sont significatifs. Il y avait de l'or, et symbole de la divinité et de la gloire. Elle parle de la perfection éblouissante de la personne de Christ. Et puis il y avait l'encens. L'encens, c'est un baume odorant qui préfigure le parfum subtil de sa vie parfaite et sans péché, offerte en rançon. Elle est consumée sur l'autel, exactement comme le faisaient les sacrificateurs. Ils entraient dans le lieu saint, et il y avait un autel d'or, on appelait ça l'autel des parfums, et puis c'était répandu, cet encens était répandu devant cet autel, et il montait, cette fumée montait, embaumée, c'était l'offrande d'une vie agréable, symbole d'une l'offrande d'une vie agréable, celle de Jésus-Christ. Aussi d'une vie qui était là, offerte sur un autel, sur l'autel de Dieu, pour mourir à notre place. Oh, elle annonce cette... Et puis il y avait la myrrhe. La myrrhe, c'est une plante amère. La myrrhe, elle annonce les souffrances que Jésus endurera en portant les péchés du monde. Lorsqu'on s'approche de Christ, eh bien, on découvre la perfection de sa sainteté, et puis la grandeur de son amour. Et cela, c'est à la croix. Quand on regarde ce que Jésus-Christ est venu pour accomplir, c'est cela qui nous bouleverse. Et c'est ça, adorer. Adorer, c'est être conscient de ce que Dieu a fait pour nous. Adorer, c'est reconnaître que lui seul, Jésus-Christ, peut payer pour nos fautes et effacer toutes nos transgressions. Et puis, la troisième caractéristique de l'adoration, on la trouve au verset 10. Il est dit ici, « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Ils n'ont pas été joyeux. Ils n'ont pas eu beaucoup de joie. Non, ils ont eu une très grande joie, quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que ça, c'est une caractéristique de l'adoration. C'est être saisi d'une très grande joie. La véritable adoration se manifeste précisément par une très grande joie. Si adorer, c'est quelque chose de terrible pour vous, si vous dites encore 45 minutes et c'est fini, moi je vais essayer de terminer plus tôt. Si c'est quelque chose d'éprouvant, si vous ne connaissez pas cette joie, alors vous n'adorez pas. Quand ils ont adoré, ils tressaillaient d'une très grande joie. Oh, le jour où l'on rencontre Dieu comme son sauveur personnel. C'est là où on goûte une très grande joie. Vraiment une très grande joie. Il y a un poids qui tombe de nos épaules, celui de la culpabilité. Il y a un poids encore qui tombe, c'est celui de tous nos efforts pour essayer de mériter les faveurs de Dieu. Et puis on laisse tomber tout cela. Et puis on se réfugie simplement dans sa grâce. Dans sa grâce et dans les mérites de Jésus-Christ. Et puis on reconnaît que la chose est tellement parfaite que le salut nous est acquis maintenant et pour l'éternité. Et ça, ça provoque en nous une très grande joie. J'imagine que la famille Niblack était dans une très grande joie cette semaine. Quand l'enfant est né, les garçons, les filles, ils espéraient un garçon en plus, alors une grande joie, une grande joie. Je me souviens quand Nathan, mon fils aîné, lorsque je lui ai annoncé la naissance de son petit frère, il avait aussi une grande joie. Je vous montrerai pas les gestes qu'il faisait, mais probablement que dans sa tête d'enfant, il voyait déjà celui avec qui il pourrait jouer. Il anticipait les moments où il allait pouvoir serrer son frère dans les bras, celui dans lequel il pourrait se confier. Il anticipe certainement toute l'amitié qui les lie, les échanges. Il anticipe les parties de rugby, les fous rires, la complicité. Tout ça, c'était ça. C'était une grande joie. Mais quand les mages sont entrés dans cette maison et ont vu l'enfant, c'était une très grande joie. C'était quelque chose qui remplissait leur cœur tout entier. Ils venaient de voir et de rencontrer leur sauveur, celui qui allait offrir sa vie en rançon pour eux. Leurs péchés allaient être effacés, pardonnés. Leur vie allait être changée. Leur faute expiée. Alors, pensez à cela aujourd'hui, que vous vous approchez de Dieu. Dieu est grand. Il a toute autorité. Quand Jean a vu le Seigneur glorieux en Apocalypse, il est tombé comme mort. Il est tombé sur sa face. Et tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ dans sa gloire et dans son autorité tombent sur leur face, c'est cela, se prosterner et adorer. Mais aussi, ils voient que ce Dieu si terrible est venu plein de douceur, portant nos offenses sur la croix. Et ça, c'est tout le message de Noël. Dieu n'est pas venu comme un juge, il est venu comme un sauveur. Il n'est pas venu comme un lion pour ravager. Non, il est venu comme un agneau pour offrir sa vie. C'est cela l'adoration, reconnaître son œuvre. Et quand on a goûté à ça, à la grandeur d'un Dieu, et un Dieu qui est devenu notre ami, qui se fait notre frère, notre sauveur, alors dans nos cœurs, il y a une très grande joie. Et l'adoration, la joie accompagne toujours l'adoration. Les mages sont venus pour adorer. Et vous? Et vous? Avez-vous déjà reconnu Jésus comme il est véritablement? Avez-vous reconnu son autorité dans votre vie? Avez-vous saisi la grandeur de son œuvre à la croix pour vous? La splendeur de son amour? Y prenez-vous plaisir? Que Dieu vous bénisse.